Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Les grandes voix, c'est votre rendez-vous quotidien, chaque soir, ils sont avec moi dans ce studio. Michel Cotta, bonsoir Michel.
Bonsoir,
bonsoir Gérard Carrérou, bienvenue bonsoir. Dans ce studio. Jean-Sébastien Ferjou est également avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Du site Atlantico, on est ensemble pendant une demi-heure. Vous avez vous aussi votre mot à dire au 39-21. On va revenir dans un petit instant dans la deuxième partie sur le Grenelle des violences conjugales qui débute demain et pendant trois mois. Mais j'aimerais vous entendre ce soir sur un autre fait d'actualité. Les contours de l'attaque qui a fait un mort et huit blessés samedi soir à Villeurbanne, près de Lyon, dans le Rhône, qui commence à apparaître. L'auteur présumé de l'attaque est un Afghan d'une trentaine d'années, demandeur d'asile en France. Il bénéficiait d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'à janvier 2020. Alors, la piste terroriste, elle est pour l'instant écartée. L'affaire, en tout cas, a déclenché une polémique sur le terrain politique. Gérard, c'est normal qu'on se soit emballé là, et notamment du côté du Front National, directement là, dans cette affaire?
Alors, avant de vous répondre si c'est normal qu'on soit emballé, moi je vous dirais ce que je pense, beaucoup de gens pensent. Je pense qu'on va un peu vite en besogne dans cette affaire. Il n'était même pas encore en garde à vue qu'on avait déjà des conclusions du style « oui, oui, non, ça n'a rien à voir avec le terrorisme parce que c'est un dément psychotique, délire, etc. » Or, moi, je constate, comme beaucoup de gens, qui a quand même beaucoup de faits troublants. On a quand même là un individu qui a trois dates de naissance, deux identités, qui a passé des années, entre 2009 et 2019, à sillonner l'Europe des capitales sans qu'on sache très bien ce qu'il faisait. On a des méthodes qui ressemblent malgré tout à des méthodes de terrorisme islamique, l'utilisation de l'arme blanche pour tuer le maximum de gens. On a un témoin que j'ai entendu sur une télé, un témoin disant à un moment donné, quelqu'un a crié « Allah Akbar » et il n'a pas poignardé cette personne-là.
Mais
et ainsi de suite.
Donc, Gérard, il est hors fichier, il n'est pas connu des fichiers terroristes, il n'est pas connu de ceux du droit commun.
Non, ce que je veux dire, c'est dans d'autres attentats, je ne dis pas que c'est un attentat,
j'entends.
Je veux qu'on m'éclaire sur un certain nombre de points extrêmement troublants. Et puis alors, après, si vous voulez, la question de la querelle politique immédiate, bon, mais c'est comme ça maintenant, ça se passe presque toujours comme ça. Le Front National réagit, les bien-pensants de gauche
politique,
disent que le Front National a tort, etc. Ça prend toujours une tourne de politique.
Alors, on va revenir sur cet aspect politique. Michel Cotta.
De toute façon, quand on a abordé l'histoire, je suis assez d'accord avec Gérard. Une fois n'est pas coutume, mais c'est vrai que je pense qu'on a tout de suite dit, ah mais c'est un dément, c'est un déséquilibré. Ouais. Oui, bien sûr, mais de toute façon, pour passer à l'acte, il faut toujours être déséquilibré, qu'on soit ou non, qu'on se réclame d'Al-Qaïda ou pas. Pour passer à l'acte, il faut toujours avoir. Or, je constate quand même que c'est un acte religieux. Religieux. Qu'est-ce qu'on appelle le terrorisme?
C'est ça.
C'est rien.
La nuance.
Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on appelle le terrorisme? Est-ce que c'est le terrorisme en bande organisée ou est-ce que c'est des petits terroristes individuels qui jouent leur jeu? C'est vrai. De toute façon, alors j'ajoute que même s'il était déséquilibré, et ça s'est vu, puisque le patron de la maison où il habitait, de la résidence où il habitait, a dit ah oui, il était très fragile. Bon, ben franchement, s'il était tellement fragile que ça, il fallait s'en occuper avant qu'il commette et pas après. Voilà.
Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes fondateur et directeur du site Atlantico. Vous avez la même lecture, là? On est peut-être allé un peu vite en besogne sur le profil?
En tout cas, je trouve qu'il est particulièrement contre-productif, mais je rejoins Michel Cotta et Gérard Carrérou là-dessus, de condamner tous ceux qui se posent des questions. On l'avait entendu, vous savez, avec Notre-Dame aussi. Moi, je ne conteste pas du tout, mais quand dès le premier soir, on va dire ah « non, non, circulez, il n'y a rien à voir », je pense que politiquement, c'est particulièrement contre-productif, parce que de toute façon, effectivement, il est très difficile, je pense, dans ce cas-là, de situer la frontière entre le terrorisme ou le déséquilibre psychologique, et l'un exclut pas l'autre. Il peut avoir un libre arbitre ou un jugement affecté et par ailleurs, et c'est ce qu'il dit, avoir entendu des voix, enfin s'il a entendu des voix lui disant que la religion était insultée, ça s'inscrit aussi peut-être dans un discours politique général. Donc il sera très difficile de faire la part des choses, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas condamner ceux qui posent les questions. Là où on peut éventuellement ne pas être d'accord, c'est dans les réponses qui sont apportées quand certains tire des conclusions trop rapides dans un sens ou dans l'autre. Mais contester que le Front National ou d'autres disent bah, « Regardez, il y a quand même un enjeu, c'est leur ouvrir un boulevard ». Enfin, après, peu importe, c'est pas notre objectif à nous. Mais enfin, les opposants, ceux qui se considèrent comme étant des opposants au Rassemblement National, c'est leur ouvrir un boulevard que de refuser qu'on pose des questions que Michel évoquait. Si on avait repéré qu'il était fragile, ouais. Il a différentes identités.
Il a différentes identités.
On peut quand même
se
poser des questions, même si par ailleurs, il n'y aura jamais de réponse évidente sur la manière dont on gère les dossiers d'asile en France.
Puis ça pose quand même une question, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais le dévoiement du droit d'asile en France, on a aujourd'hui...
Alors ça, on va y venir.
Mais oui, bon, alors
on va y venir. Juste dans un petit instant, on a aussi des auditeurs qui nous appellent, donc restez avec nous si vous avez des questions à poser à Gérard Carrérou, Michel Cotta et Jean-Sébastien Ferjou, on arrive tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et les grandes voix au 39-21, c'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico.
Effectivement, fondateur et directeur de cette publication. Merci à tous les trois d'être dans ce studio ce soir. On était à Villeurbanne, près de Lyon, dans le Rhône, juste il y a quelques instants, après cette attaque au couteau. Un Afghan d'une trentaine d'années, demandeur d'asile en France. Le débat est relancé sur la scène politique. Je voudrais qu'on prenne Didier, qui nous appelle ce soir. Merci Didier, bonsoir à vous. Vous nous appelez là, de la région parisienne ?
Oui, tout à fait, oui, bonsoir.
Et vous vous interrogez sur cette attaque ? Dans quel sens ?
Alors, je m'interroge. D'abord, je suis extrêmement surpris, comme déjà depuis longtemps, par la précipitation avec laquelle on nous affirme que telle ou telle thèse, en l'occurrence terroriste, est immédiatement écartée. Je ne comprends pas comment on peut le savoir dans les 5 minutes qui suivent, si vous voulez. Je ne comprends pas très bien. Ça me paraît extrêmement étonnant, cette précipitation. Deuxièmement, sur le fond, ça c'était sur la forme, sur le fond, je constate simplement que, comme malheureusement, et je le regrette sincèrement, le profil des personnes qui malheureusement se livrent à ces agressions est en général très semblable avec une religion qui malheureusement, je le regrette à nouveau, est toujours la même. Je le regrette, mais effectivement, pour quelqu'un qui fait partie de ce que j'appelle le peuple, avec un grand P, hein, majuscule, il est difficile de ne pas faire des relations entre différentes choses, c'est-à-dire entre la violence et malheureusement la répétition par certaines personnes, toujours les mêmes, de certains actes.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous, Didier ? Vous dites évidemment, il faut savoir raison garder, prudence absolue, avant de tirer des conclusions, ça on l'a entendu, mais encore, la politique, le droit d'asile, ça a toujours été ?
Bon, si vous voulez, excusez-moi, la précipitation avec laquelle on nous annonce que telle ou telle cause, c'est-à-dire le terrorisme en l'occurrence, est d'emblée écartée, est en elle-même cette précipitation extrêmement suspecte. Ouais.
Merci beaucoup Didier d'avoir réagi ce soir au micro d'Europe 1. Michel Cotta,
je voulais juste ajouter qu'elle était suspecte, mais elle est surtout contre-productrice. Parce que ça veut dire que du coup, quand n'importe quoi arrive, on peut se dire que c'est un attentat, parce qu'on n'a pas confiance dans les jugements. Donc, ce qu'il faut dire, c'est, on dit, ça peut être, ça peut ne pas être, mais surtout, on n'affirme rien dès la première heure de l'attentat. Voilà.
Et puis, il y a quelque chose que je trouve particulièrement gênant à la longue, c'est cette espèce de mépris des Français. C'est-à-dire qu'il faudrait précisément cette espèce de précipitation, c'est parce qu'on a peur, comme si les Français allaient le lendemain se jeter sur leurs voisins musulmans en le lynchant. Mais je suis désolé, il y a quand même eu malheureusement un certain nombre d'attentats. Les Français ne se sont pas livrés à des actes de rétorsion. Il y a une résilience dans ce pays, il y a une maturité de ce pays, même si bien sûr, par ailleurs, il y a du racisme, même si bien sûr, il y a des inquiétudes, les deux pouvant parfois se rejoindre ou être parfaitement distinct, mais cette espèce de mépris, regardez, même le mépris, paradoxalement, pour les héros de Villeurbanne. C'est-à-dire, on dit à Sofiane, ou au chauffeur de bus, pardon, dont le nom m'échappe, dont le nom m'échappe, d'ailleurs, imaginerait-on qu'on appelle un Français juste par son prénom, mais bref, enfin, un Français qui ne serait pas, justement, érigé comme ça en raison de son origine. Et on dit, mais regardez, ils sont d'autant plus des héros qu'ils étaient eux-mêmes musulmans, mais c'est absurde, ils sont des héros parce que ce sont des personnes Parce que c'est ce sont des personnes qui ont eu le courage d'agir. Et évidemment que personne ne peut douter que parce qu'on serait musulman ou n'importe quelle autre confession, n'importe quelle autre origine.
Mais la question, c'est franchement, pas pour le suspect qui est déféré ce soir, le suspect qui est déféré en vue de samedi,
mais ça diminue la valeur de leur acte.
Pas tout en même temps. Je précise juste, pour être complet sur ce dossier, que le suspect est déféré ce soir en vue de sa mise en examen. Et la question que je vous pose quand même avant d'aller sur l'autre thème que je voudrais qu'on développe ensemble ce soir, c'est est-ce qu'il faut revoir la politique migratoire ?
Oui, écoutez, on a Carrérou,
oui, c'est un oui.
Le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est très bien. Je suis pour, comme ça fait partie de nos traditions. Sauf qu'on est en train de le dévoyer et ça devient une filière d'immigration clandestine. Je m'explique. Il y a 130 000 demandes. Alors, on va donner au bout d'un certain temps, très long déjà, plusieurs mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Les gens sont là sur le territoire. Et on va récuser à peu près 100 000 d'entre eux et on va en garder 30 000. Oui, mais les 100 000 d'entre eux, ils vont rester en France et on en reconduira à la frontière.
Mais il y a des expulsions, Gérard Carrérou, entre 15 et 20 000 personnes par an.
Mais
ça demande des opérations extrêmement
lourdes.
C'est
même pas 20% du nombre de ceux qui sont rejetés par le droit d'asile. On dit non, vous n'avez pas droit au droit d'asile. Ils restent sur le territoire français et ils viennent grossir le flot de l'immigration illégale. C'est tout.
C'est effectivement plus compliqué. On voit bien que c'est très compliqué une fois que les gens sont là. Très difficile.
C'est extrêmement compliqué. C'est des opérations extrêmement lourdes avec des moyens énormes à mobiliser.
D'un autre côté, il faut savoir aussi d'où ils viennent. Parce que venir d'Afghanistan, c'est pas. Il y a un gouvernement afghan avec des talibans qui luttent contre lui. Mais le gouvernement, en principe, ne devrait pas justifier le droit d'asile.
Mais le droit d'asile, Jean-Sébastien Ferjou, l'immigration zéro, ça n'existera jamais, que les choses soient claires en France.
Il faut garder le droit d'asile.
Il faut passer à des quotas, des formations de ces immigrés, des retours, j'allais dire, chez eux, une forme de coopération. Ils se forment chez eux et puis ils repartent. On n'a pas réussi à le faire, ça, par exemple, alors que d'autres pays l'ont fait. Il faut passer à des modèles comme ça.
Quand on est à 130 000, on n'a plus les moyens de faire, effectivement. On est arrivé à une masse. On a dit aux gens... inscrivez-vous au droit d'asile, et ils se répètent entre eux, on s'inscrit, et à partir de là, on est en France, sain et sauf, pour l'éternité.
Jean-Sébastien Ferjou.
En tout cas, il faut résister à la tentation de penser qu'il pourrait y avoir des solutions miracles, mais je suis d'accord qu'on peut se poser la question de la manière dont c'est géré d'un point de vue administratif. On le voit bien avec le statut du jeune Afghan en question, qui ne bénéficiait pas d'un droit d'asile, mais d'une espèce de statut intermédiaire, c'est-à-dire qui n'a pas obtenu le droit d'asile, mais qui a le droit de rester en France quand même, parce qu'on considère que le pays d'origine...
Et depuis 10 ans déjà.
Et donc, c'est une espèce de complexité administrative complètement folle, et il y a aussi un certain nombre de magistrats dans ce pays qui empêchent les reconduites à la frontière, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il est très difficile pour un gouvernement même très déterminé politiquement de parvenir à expulser les gens, parce que, alors, soit parfois les compagnies aériennes ou les passagers s'y opposent, mais bien souvent ce sont quand même les magistrats qui trouvent des moyens.
Les expulsions l'année précédente ont été plus importantes que les autres années.
En tout cas, le gouvernement, l'exécutif se voile pas la face. Il y aura un débat au Parlement à partir du 25 septembre avec... c'est risqué pour l'exécutif. On verra ce qu'il en ressort. Évidemment, on verra s'il y a des solutions, des lignes, des outils qui sont proposés. Parce qu'Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, il n'avait pas été très prolixe sur ce sujet. On se retrouve dans un petit instant. Restez avec nous. Jean-Sébastien Ferjou, Gérard Carrérou, Michel Cotta, ils sont là. Ils sont avec nous dans ce studio.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite du débat des grandes voix avec autour de vous Nathalie Lévy, ce soir Michel Cotta, Gérard Carrérou et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur du site Atlantico, et toutes vos réactions en direct au 39-21.
Et on se retrouve évidemment pour avancer sur le sujet dont on va parler tous demain, dont on parle déjà évidemment compte tenu des chiffres, le Grenelle des violences conjugales. Il va être lancé demain pendant 3 mois, alors que 121 femmes ont été tuées par leurs compagnons l'an dernier et déjà 100 féminicides cette année avec le drame de ce week-end encore. Michel Cotta, je me tourne vers vous parce qu'on en a un tout petit peu parlé en off, on peut le dire à nos auditeurs. C'est un bon début ce Grenelle ?
Alors j'entendais Eva Darlan qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour la cause des femmes, hein, on ne peut pas dire le contraire, et qui a réussi à désigner comme ça, à mettre le projecteur sur ça. Donc moi je suis persuadée, mais peut-être que c'est ma bonne nature, je suis persuadée qu'il vaut mieux qu'on en parle y compris dans un Grenelle, et qu'on en parle pendant 3 mois, plutôt que de ne pas en parler. Voilà, alors, c'est vrai que les associations ont fait leur boulot, c'est vrai que la maire de Paris a fait le... Mais je pense qu'en effet, des questions se posent, elles sont graves, parce que ces violences, c'est le signe d'une société sauvage, quoi, sous-développée. On ne peut pas accepter ça en France. Bon, donc, sensibiliser et donner les moyens, y compris les bracelets électroniques aux hommes, etc. Il y a beaucoup de choses à discuter. Et moi, je pense que c'est pas mal qu'on en discute.
Il y a beaucoup de choses à discuter, mais il y a déjà, Jean-Sébastien Ferjou, nombre d'associations, d'observateurs et autres qui disent « c'est bien joli ». Eva Derland nous le disait, elle nous a dit « pipo », c'est simple, le mot est clair, c'est ce qu'elle nous a dit. Jean-Sébastien, elle nous a dit qu'elle n'en attendait rien, qu'en termes de moyens, finalement, il n'y a pas grand-chose. Les associations, d'ailleurs, Place du Trocadéro à Paris, hier, en face de la Tour Eiffel, le disaient. C'est insuffisant en termes de moyens et en termes de mesures annoncées. Typiquement, les places dans les centres, c'est pas vrai. Les femmes, elles veulent rester chez elles. Elles veulent pas être dans des centres. Le bracelet, ça existe déjà, mais finalement, c'est pas tant diffusé que ça. Alors qu'en en Espagne, ça fonctionne très bien. En gros, voilà, elle en attend rien.
C'est le droit d'Eva Darlan.
Cela oui, dit, mais elle n'est pas la seule.
Moi, je l'ai trouvée assez convaincante tout à l'heure en l'écoutant avant cette partie de l'émission sur le fait de dire la loi existe déjà, faisons appliquer ce qui existe déjà. Maintenant, là où je rejoins Michel, c'est que malgré tout, le fait d'en parler ne peut pas être mauvais en soi. Ce qui me dérange un tout petit peu, c'est le mot que vous employez, mais qui est celui qu'a tendance à employer Marlène Schiappa aussi, c'est féminicide. Pourquoi ? C'est pas juste pour le plaisir d'avoir des polémiques philosophiques ou sémantiques. C'est parce qu'on a tendance à politiser la question. Je ne crois pas que les femmes qui soient victimes d'un conjoint ou d'un mari violent, ce soit parce qu'ils se disaient tiens, je vais la tuer parce que c'est une femme et que je considère que le statut de la femme est comme ci ou comme ça. On ferait mieux d'aider, et ça fait partie de ce qui peut être discuté dans un Grenelle de l'environnement.
Des violences conjugales
faites aux femmes. On peut discuter de suivi psychologique, justement, parce qu'il faut aussi aider les gens qui sont confrontés à profils de pervers.
Il faut surtout aider les femmes.
Il faut surtout aider les femmes. Il y a un travail,
effectivement. Mais il faut d'abord aider les femmes.
Moi, je vous parlais justement d'aider les femmes, ou d'ailleurs les hommes, parce que il me semble que les violences ne sont pas réservées qu'aux femmes, même si...
Non, mais ça, franchement, sur la comparaison...
On peut donner un chiffre, on le donnera.
De savoir repérer les profils psychologiques de gens qui sont susceptibles, parce qu'en général, c'est un cheminement. Ça, on devrait le faire plutôt que de considérer que c'est de trop politiser la question, parce que ça désinvestit les individus.
Et est-ce qu'on a besoin d'un Grenelle, j'allais dire, de l'environnement?
On a besoin de toute occasion, je pense que c'est pour ça.
Mais les mesures, les moyens, ils sont là, Gérard Carreau.
On a besoin de toute... Je crois que c'est bon qu'on en parle sur tous les médias. Moi, j'ai vécu dans ma famille un cas, j'en parle avec beaucoup de pudeur de tout ça, parce que j'ai vécu un cas d'une femme qui a été battue pendant des années et qui a fini par se suicider. Et je voudrais que prise de conscience des gens qui se disent quand on tape, quand on entend des bagarres, quand ça se cogne dans l'appartement d'à côté, etc., ou quand on voit les enfants qui disent oh, mon père, il a tabassé ma mère, etc., je voudrais que tout ça, ce sont des signaux qu'on appelle des signaux bas, de basse fréquence, que tout ça remonte de façon à ce qu'on puisse détecter un certain nombre de cas. Parce que les femmes, elles ont parfois très peur. Des fois, elles ne sont pas entendues au commissariat.
Il y a l'emprise mais elles ont psychologique, il y a l'emprise financière.
Emprise. Des fois, elles se disent, oui, mais il m'aime quand même, un jour, il s'arrêtera. Et il ne s'arrête jamais.
Ce Grenelle, il va démarrer
demain.
Mais
c'est toute la société française. C'est toute la société française qui est bancale de ce point de vue.
Il faut rappeler qu'il y en a de moins en moins. Mais
on en parle.
Quand
dans un commissariat, on n'entend pas une femme qui dépose une plainte, ça veut dire qu'on pense que les femmes sont faites pour être battues.
On s'arrête là, messieurs, dames. Merci beaucoup. Ça commence demain, ça durera pendant 3 mois. Et vous l'avez dit, Jean-Sébastien Ferjou, il y a aussi des hommes qui subissent des violences conjugales. Un homme, chaque 13 jours, est assassiné par sa conjointe. Merci à tous les trois. Merci Michel Cotta, Gérard Carreau, Michel qui ouvre des yeux grands comme des billes, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur de la publication du site Atlantico.
À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est le journal de 19h. Restez avec nous, c'est Sébastien Krebs. À la une de l'actualité ce soir, la rentrée scolaire, bien sûr.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h.
Europe 1.